Bonjour. Bon, juste pour remettre un peu dans le contexte, il y a 2 semaines, pour ceux qui étaient là, j'avais fait un mini compte-rendu de ce qu'on avait vécu pendant les vacances. On était allé en Angleterre à un camp chrétien qui s'appelle New Wine, donc vin nouveau, New Wine. Et c'était la deuxième fois en fait qu'on a été là-bas et on a vraiment vraiment été très très bénis là-bas et notamment par les enseignements. Donc ce que je vais vous partager ce matin, c'est pas de moi, hein. je l'ai un petit peu remouliné, mais c'est principalement le message que j'ai entendu là-bas. Donc c'était un gros message. Enfin, moi j'ai été à 5 matinées d'affilée avec le même prédicateur, donc c'est costaud. J'ai synthétisé l'essentiel, j'espère. Donc c'était un prédicateur américain qui s'appelle John Mark Comer. Donc je vous invite à faire une petite recherche sur lui. C'est un pasteur américain de Portland. Et vraiment, on était avec donc Mine, ma mère et même mon père qui était là. Et on a tous été assez captivés. Hein. On a été les 5 matinées de suite. Comer à E-R, à R à la fin. Ouais. Pas de Y. Ouais. Voilà, comme ça. John Mark Comer. Voilà. Voilà, c'était vraiment un super message, et c'est là ce qu'il a prêché. J'ai l'impression que c'est vraiment son thème de prédilection, un peu comme Dan Snead qui prêche beaucoup sur l'identité. Lui, il prêche beaucoup sur la transformation. Donc c'est un thème qu'on a beaucoup entendu ce matin dans les chants, dans l'histoire de Michel, voilà. Et c'est être transformé en la ressemblance de Jésus, quoi. Donc voilà. Donc toutes mes notes sont en anglais. Je vais traduire en direct, ce sera plus spontané. Hein. Voilà. Pardonnez-moi s'il y a des petites hésitations. Voilà. Je pense que c'est bon. Donc est-ce que j'oublie quelque chose? John McComber. Oui, c'est ça. Voilà. Donc voilà. Donc la transformation, le changement. Je pense qu'on est d'accord en fait que la plupart des gens veulent changer, veulent grandir. C'est pas juste certains chrétiens, voilà. C'est quelque chose d'assez qu'on rencontre souvent, même chez les non-chrétiens. La prise de conscience que là où on est, c'est pas satisfaisant, quoi. On a envie d'aller quelque part. Il y a un gap entre ce qu'on est, là où on se trouve, et là où ce qu'on aimerait être, en fait, quoi. Donc on voit beaucoup, alors lui il voit beaucoup aux États-Unis, mais je crois qu'on voit beaucoup ça en France, des ouvrages, des bouquins sur ce qu'il appelle self-help. Donc c'est, je sais pas comment ça se traduit, mais des bouquins sur comment se sentir mieux, enfin l'auto aide ou l'auto motivation ou l'auto stimulation. Ouais, voilà. Mais voilà, pas spécialement des ouvrages chrétiens. Hein. C'est vraiment dans les bibliothèques, on voit ça. Enfin, en tout cas, aux États-Unis, c'est absolument partout, quoi. C'est vivre sans stress, c'est possible. Enfin, ce genre d'ouvrages, quoi. Donc, c'est quand même une vraie indication de ce que les gens ressentent le besoin de changer. Mais le problème, c'est que les gens ne croient plus au péché originel. Donc, ils ont pas cette, ils considèrent pas ça, qu'il y a un problème en eux, donc ils accusent en fait, ils rejettent le blame, l'accusation. C'est pas ça vient pas de moi ce que je vis là, le problème, ça vient de lui, ça vient de cette personne, ça vient de ça, de ces circonstances, de ce que je vis. Donc on rejette en fait, on lit des choses pour s'auto-aider, donc l'aide, on la prend pas de l'extérieur, on la cherche tout seul. Mais l'accusation, quand ça va mal, c'est pas moi le problème, c'est autre chose, c'est autour de moi, quoi. Donc, les gens ne croient plus que le problème vient d'eux, en fait. Ils accusent, ils rejettent la faute, quoi. Donc, par contre, oui, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité, dès le début d'ailleurs. Il y a eu un problème, quelque chose s'est mal passé. Hein, donc, dans Genèse, dès le début, il y a la rébellion, le péché, quoi. Et ça, c'est malheureusement ce qu'on vit, quoi, ce qu'on hérite. Donc, Nous, voilà, ce qu'on on peut être, comment dirais-je, on peut suivre Jésus ou on peut être non chrétien et tous les deux avoir ce désir de diminuer cet écart entre ce qu'on est et ce qu'on aimerait être, quoi. Donc, et c'est ça, ce qui s'appelle apprenticeship, donc être un apprenti, apprendre, enfin l'apprentissage, quoi. Parce que le mot disciple, c'est un mot chrétien, donc là, c'est quelque chose. Les gens ont cette envie. Par une certaine discipline ou un certain apprentissage de diminuer l'écart qui peut être très grand ou moins grand entre ce qui voudrait être ou pour nous chrétiens être plus à l'image de Jésus et là ce qu'on est aujourd'hui quoi. Donc je vais lire dans Luc 6 39 et 40 donc Jésus leur dit aussi cette parabole: un aveugle peut-il conduire un aveugle? Donc, non. Et plus loin, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Donc, l'aveugle qui suit l'aveugle, on est tous perdus. Voilà, c'est chercher l'aide au mauvais endroit. C'est suivre quelqu'un qui ne sait pas lui-même où il va. Donc ça n'aboutit à, enfin, ça aboutit à tomber dans la fosse tous les deux. Voilà. Donc, par contre, le disciple. La bonne relation qu'il faut aborder, c'est celle du disciple avec son maître. Le disciple, il est conscient qu'il n'est pas aussi grand que son maître, il est conscient qu'il y a cet écart entre lui et, en l'occurrence, le rabbin ou celui qui l'enseigne, quoi. Donc, c'est là qu'on prend conscience de cet écart qu'on a à diminuer, en fait, se rapprocher vers les enseignements du maître, quoi. Donc, on est d'accord que c'est pas un changement extérieur de circonstances. C'est pas quelque chose de, comment dirais-je, comme un bâtiment là, un ravalement. C'est pas juste la façade qu'il faut changer, avoir l'air plus joyeux, tout ça. C'est de l'intérieur. C'est de l'intérieur vers l'extérieur, quoi. C'est un changement complet de l'intérieur, quoi. Alors que dans l'autre façon de penser, on attend des circonstances extérieures qui change pour que nous on soit changé. Donc c'est dans l'autre sens, mais ça marche pas en fait. Donc c'est vraiment de l'intérieur qu'il faut changer. Et le mot qu'on utilise, c'est transformation. Alors je renvoie, c'est dans 2 Corinthiens. Tac, 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc transformés en la même image. Juste une précision, hein, je vous apporte ce message, mais je ne sais pas si je suis la mieux placée. Hein, moi, j'apprends autant que vous. Hein, c'est pas dire de faire des choses. Je suis pas dans ce contexte du tout. Hein. Je suis très humble hein, par rapport à tout ce message de transformation. Hein, je le précise. Hein. Voilà. donc le mot utilisé, c'est transformation. Hein, transformer de gloire en gloire. Mais en fait, le mot apparemment le mot grec, hein, ça c'est pas trop mon domaine, mais ce qui est le mot grec qui est utilisé, c'est transformation dans le sens métamorphose, quoi. C'est pas, enfin voilà, c'est une vraie transformation complète, quoi, qui est un peu à l'image qu'on utilise pour ce sens de transformation ou métamorphose, c'est l'image de la chenille qui devient un papillon, quoi. C'est ce niveau de transformation qui est enseigné, quoi. Donc c'est une transformation, c'est Johnny là, l'histoire de ce matin. c'est vraiment dans notre, au niveau presque de l'ADN, quoi. C'est vraiment un changement très 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 profond et durable qui s'opère, quoi. Donc la question, est-ce que ce type de changement est possible? Voilà, on dit oui, c'est possible, mais c'est quand même une question parce que quand on pense à notre environnement, l'époque où on vit, la situation dans le pays ou dans le monde, est-ce que aujourd'hui c'est encore possible de changer à ce point? Il y a tellement de, enfin comment dire, dans nos vies, on vit dans l'anxiété parfois, on connaît des moments de déprime, on n'a pas de joie. des fois on a l'impression d'atteindre un plateau dans la vie spirituelle, voilà, on est arrivé là, et puis après, pendant un an, on se sent un peu coincé, quoi. Voilà, il y a plein de gens qui font tout ce qu'il faut, hein, mais ça reste au niveau d'un plateau où on a vraiment le désir de changer certaines choses de notre vie, mais il y a toujours ce motif un peu qui est ancré là, qui revient toujours, hein, des motifs un peu, je sais pas si c'est le mot motif, patterns, quoi, des schémas, merci, des schémas de pensée, des schémas dans nos relations, dans nos comportements, etc. Donc on n'est pas encore dans cette liberté, quoi. On est encore dans un stade de pas être libre, d'être contrôlé, en fait, quoi. Donc c'est pas qu'on veut pas changer, hein. Beaucoup de gens veulent changer, beaucoup de gens le désirent, et beaucoup de gens font des efforts, hein, pour changer, mais ça produit des améliorations, hein. Peut-être on se retient de dire des mauvaises choses, voilà, ça c'est des bonnes, c'est bien, mais on n'arrive pas au niveau de transformation que Jésus décrit, et voilà, être à son image, quoi. Une prédication de Jésus qu'on peut utiliser comme référence, c'est le sermon sur la montagne, donc dans Matthieu 5, 6 et 7. C'est un long passage, hein, mais il décrit la condition humaine avec ses imperfections, etc. Mais il y a quand même la barre est haute, quoi. Hein, si je prends comme exemple, je vais lire exactement parce que je vais pas. Donc Matthieu 5, 6, 7. Tac. Je trouve pas. Oui, je vais pas tout lire. Mais par exemple, il dit tu ne tueras point. Vous avez entendu, tu ne tueras point. Moi, je vous dis, ne te mets pas en colère contre ton frère. Donc la barre est haute, hein. Donc de pas tuer, bon, ça on peut se retenir, mais de pas se mettre en colère, c'est difficile, hein. Donc tout est comme ça, quoi. C'est un niveau de transformation, difficile à atteindre. Et du coup, on est un peu démuni par rapport à ça. Donc ce qu'il faut, c'est une sorte de formation spirituelle qu'on appelle aussi sanctification, le processus de être transformer, changer dans les traits de Jésus, alors qu'on est en train de marcher avec lui comme son apprenti. En fait, lui, il utilise le mot apprenti. On peut être dans les traductions, ça peut être disciple ou ça peut être élève de Jésus. Mais voilà, le mot élève, la relation maître-élève, c'est juste. Mais souvent, quand on entend élève, on s'imagine que c'est de telle heure à telle heure et après on est libre. Donc ça, c'est non. Et le mot disciple, il est très chrétien. Donc on l'entend tellement que des fois on perd un peu le sens réel, quoi. Et finalement, c'est quelque chose d'assez concret, quoi. C'est comme un apprenti, en fait, d'être avec à l'époque des Juifs, c'était le rabbin. On vit avec lui, on le suit tout le temps, partout. On apprend de lui par sa vie, par ce qu'il dit, par tout ce qu'il fait. C'est ça, nous, ce qu'on doit être par rapport à Jésus, quoi. Et le truc, c'est que c'est pas vraiment optionnel non plus de se dire bon, j'ai besoin d'être transformé maintenant. C'est quelque chose de pas que chrétien, c'est humain, en fait. L'humain, c'est le changement, c'est pas, la création n'est pas statique, quoi. Il y a la vie, et tout homme, en fait, chacun de nous, on est transformé, qu'on le veuille ou non, dans la vie. On évolue, on change, on apprend des choses. Finalement, on est tous disciples de quelqu'un ou quelque chose, qu'on le sache ou qu'on le sache pas, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. On est tous en train d'être shaped, transformé, façonné dans une certaine image. Et par rapport à ça, il y a deux schémas que je vais décrire, deux paradigmes. Hein. C'est pour André, c'est deux paradigmes. Donc deux façons de voir la vie, de façon de penser. Il y a le premier schéma, le premier paradigme, c'est la formation spirituelle involontaire. Sans qu'on fasse rien, voilà ce qui nous façonne, voilà ce qui nous forme. Donc stories, ça va être les stories, les histoires qu'on croit. Donc ça, les histoires qu'on croit, c'est par exemple, on a tous chrétiens, non chrétiens, des croyances, une façon dont on va décrire en fait la vie, ce que sont les hommes, qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est la réussite. On a tous on croit des choses différentes. Dans le monde en ce moment, on entend beaucoup parler que, par exemple, finalement, l'homme vient du singe, des animaux. Donc, l'homme, c'est un animal évolué, quoi. Que le gendre, finalement, est-ce que ce serait pas juste une construction de la société, quoi, homme, femme, etc. Est-ce que finalement c'est si important? Est-ce qu'on peut pas justement choisir ou des choses comme ça, quoi? Si on choisit de croire l'histoire dans laquelle les hommes sont des animaux évolués, oui, pourquoi pas? Il y a plein de choses qui sont possibles. Après, voilà, nous, ce qu'on va croire, c'est au commencement, Dieu créa. Voilà, ça, c'est notre histoire. C'est ça qu'il faut qu'on ait en tête, quoi. Mais dans le monde, il y a plein d'autres histoires qui sont très différentes et ça peut être une vraie confusion, quoi. Donc ça, c'est le premier élément, parce que finalement, les histoires qu'on croit ou ce qu'on croit, c'est ce qu'on va, ça va se refléter dans notre vie, quoi. C'est comme ça qu'on va vivre, en fait. Ça façonne notre façon de penser, quoi, notre façon de vivre. Alors le deuxième, c'est habits, les habitudes. Donc je vais mettre là. Voilà, les habitudes. Donc ça, évidemment, ça nous façonne beaucoup aussi. Donc habitudes. Donc les habitudes, c'est ce qu'on fait sur une base régulière. On le devient, quoi. C'est une répétition. On fait la même chose. Et ça s'ancre en nous. C'est même ce qu'on fait par habitude. C'est ça qui va façonner finalement ce qu'on aime et ce qu'on désire, quoi. Ça façonne nos cœurs à répéter des choses. Ça crée un sillon, quoi, dans notre façon de vivre. C'est dur de sortir, quoi. Donc nous, là où on doit intervenir, c'est que il y a des disciplines spirituelles pour nous. Il faut que et j'adore ce qu'il utilise comme mot curate, curate, c'est dans un musée, en fait, le gars qui choisit quelles œuvres on va mettre. Bref, c'est pas grave. C'est quoi? Non, pas gardien. Non. Ouais, peut-être, ouais, voilà. Conservateur, voilà. Donc c'est être comme ça, le conservateur de notre cœur, quoi. Qu'est-ce qu'on met dans notre cœur, quoi? Là, ça va pas, c'est moche, ça va pas avec le reste. Voilà, dans ce sens-là, moi ça m'a parlé. donc ça, c'est un rôle qu'on a, et notamment dans nos choix de entertainment, quoi, de distraction, de qu'est-ce qu'on fait dans notre temps libre, quelles sont nos habitudes. Il faut se poser la question, qu'est-ce que ça fait, ça, à mon cœur, quoi? Est-ce que c'est une mauvaise habitude? Est-ce que ça abîme mon cœur? Ou est-ce que ça m'enseigne des bonnes choses? Voilà. C'est ce genre de choix à faire. Le troisième, donc, c'est les relations. Nos relations. Oh là, j'espère que c'est lisible. C'est Charles qui écrit mieux que moi. Alors là, j'ai pas les versets et c'est en anglais, mais en fait, Paul a dit que la mauvaise compagnie, ça corrompt les bonnes morales. Ça, c'est à peu près ça. Voilà, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes morales, les bonnes mœurs. Merci. Et dans Proverbe, dans l'autre sens, donc, celui qui marche avec un homme sage devient sage. Donc, voyez le contraste en fait avec qui on est, ce que ça fait dans notre vie, quoi. Ça peut être, nos relations peuvent être une vraie source de bonnes choses ou une source de très mauvaises choses. En fait, on devient comme les gens avec qui on est aussi. Voilà. Donc, ça, c'est les trois points là. Tac, je fais une pyramide, hop. Et en fait, au milieu, il y a l'environnement dans lequel tout ça se passe. Donc, tous les histoires qu'on croit, les habitudes qu'on a, les relations avec lesquelles on est, se passent dans un certain environnement. Donc, évidemment, là où on habite, la ville où on habite, le pays où on habite, c'est une histoire de culture, hein, mais ça a vraiment aussi une très forte influence sur nous, même d'une ville à l'autre, hein, ça change beaucoup. Donc, de vivre dans un endroit pendant 20 ans, on devient comme les autres gens qui vivent dans ce lieu, quoi. Grosso modo, on a les mêmes habitudes. Si c'est une ville un peu dense et tout, bah les gens prennent le métro, tout le monde prend le métro, on prend l'habitude. Ça nous conditionne aussi, ça nous forme. Voilà, c'est comme une formation en fait. Là où on habite, ça a beaucoup d'influence sur nous aussi, quoi. Et il y a en ce moment, il y a le lieu où on habite, mais il y a un autre endroit virtuel où on habite, c'est Internet, quoi. C'est hyper fort aussi, c'est un environnement. C'est OK, j'habite en Bergenville, mais je suis beaucoup sur Internet, et ça, c'est un environnement qui m'affecte aussi énormément, quoi. C'est les deux, en fait. Et tout ça, en fait, ça travaille ensemble, et c'est une force qui nous forme, qui nous façonne, quoi. C'est donc une formation spirituelle inintentionnelle ou non intentionnelle. C'est imposé, quoi. On peut avoir un certain niveau de contrôle. On peut, bah, ok, c'est bon, ça me va, tout ça. Donc on contrôle pas, on se laisse emporter là où ça nous amène. Ou on peut avoir un niveau de contrôle où on est plus vigilant, où on fait attention. Voilà. Il y a une variante au niveau du contrôle qu'on peut exercer là-dessus. Et tout ça, en fait, ça se passe dans la durée, sur une ligne de temps. Donc il y a la notion de temps qui joue énormément et au travers des expériences. Voilà. Donc les expériences, les coups durs, voilà, tout ça c'est des étapes aussi dans notre formation de ce qu'on est en train de devenir, quoi. On n'a rien à faire, hein. On se réveille, on vit sa vie, on est formé à devenir une certaine personne, en fait, quoi. Et donc notre vie avec Jésus doit contrebalancer, ou même plus fort que contrebalancer, quoi, carrément overwhelmed, voilà, complètement surpassé toutes ces forces-là, quoi, qui nous façonnent chaque jour, quoi. Est-ce que c'est possible comme ça de transformer, pas pour devenir une sorte de clone chrétien, mais comme la vision de l'EPEA, être libéré pour devenir la personne que Dieu a prévu pour nous depuis toujours, quoi. C'est ça, et c'est possible, mais c'est pas inévitable. Ça c'est possible, mais ça peut aussi ne pas se passer. Ça se passe pas juste comme ça, quoi. Il y a une force vraiment qui est forte, hein, c'est considérable, et elle peut très bien nous entraîner carrément de l'autre côté, quoi. On veut aller là, mais hop, on dérive, quoi. Donc ça, c'est les choses à avoir en tête. Ça, c'est le premier modèle. Donc voilà, qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est la question. Déjà, en voyant ça et par rapport à notre vie, comment on se projette, nous, à l'horizon, quoi, de, je sais pas, 5 ans, 10 ans, comment on se voit, est-ce qu'on se voit plus proche de Jésus, plus comme Jésus, ou est-ce qu'on est-ce qu'il y a des choses à changer vite parce qu'on se voit un peu dérivé ou dévié, quoi. Là, je prends l'exemple de John Mark, hein, donc, qui, lui, il est fils de pasteur et il est devenu pasteur très jeune d'une église, qui est devenue une grosse église. Donc, voilà, il avait du succès en tant que pasteur selon les critères. Lui, il dit américain, mais bon, c'est pas que c'est les critères du monde, quoi. Mais il s'est rendu compte que, enfin, c'était une terrible réalisation qu'en fait, il pouvait être un succès en tant que pasteur, mais un échec en tant que apprenti de Jésus et un échec en tant qu'être humain. Il se voyait, il avait peur de ce qu'il était en train de devenir, quoi, parce qu'il était un workaholic, un accro au travail, travaille tout le temps. Son jour de repos, le sabbat, là, c'était son jour de convalescence, il appelait ça. Bon. Se remettre de sa semaine super dure. Et sa femme était tout le temps fâchée contre lui, ils se disputaient beaucoup de tensions, etc. Et voilà, c'est possible d'être un très bon pasteur, mais voilà, un mauvais mari, mauvais père, mauvais, enfin voilà, il se sentait dans la mauvaise voie, quoi. Donc, lui, il a quitté son poste de ça, il a créé une autre église plus petite et tout. Bon, ça c'est voilà. Mais ce qu'il encourage à faire, c'est de prendre un espèce de faire un audit. Bon, c'est pas ce mot. De noter un peu nos habitudes. Du matin, voilà, qu'est-ce que je fais quand je me réveille, je vérifie mes mails, ou est-ce que je lis la Bible, ou je sais pas, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais au travail, et qu'est-ce que je fais la nuit, enfin, la soirée, etc. Prier sur ça, et essayer de voir, est-ce qu'il n'y a pas un espèce de comment, schéma, là, un truc, voilà, quelque chose qui, comme connecter les points comme ça. Voilà, j'ai ce problème dans ma vie, j'ai cette mauvaise attitude ou voilà. Et par rapport à ce que je fais de ma journée, est-ce qu'il n'y a pas des liens entre ce que je fais, tiens, cette petite habitude là, celle-là, et le résultat, je me mets vite en colère ou voilà, je suis stressé, des choses comme ça. Et voilà, est-ce qu'il y a des habitudes qui mènent à être anxieux, à être pas satisfait de sa vie, à aimer moins Jésus, etc. Et par étape, hein, pas tout changer du jour au lendemain, mais se dire bon bah voilà, cette habitude là, je reconnais que ça me fait pas du bien, je passe voilà x temps par jour à faire ça et c'est pas une bonne chose, je décide de plus faire ça, et ça peut être juste un truc qu'on fait 10 minutes, hein, je le fais plus, je fais autre chose à la place qui va être plus bénéfique, quoi. Petit à petit, hein. Moi j'ai un exemple personnel, hein, mais c'est comme tout, hein, c'est pas quelque chose de mal en soi, mais bah, chacun, ça produit quelque chose de différent. Moi, avant, j'étais pas du tout connecté aux informations, les actualités, c'était pas du tout quelque chose qui me, voilà, j'étais dans mon travail, sur une autre planète, mais après, j'avais l'habitude le matin, quand j'allume mon ordinateur, de vérifier les informations sur les sites très sérieux, hein, voilà, je sais pas, des journaux en ligne comme ça. Et puis c'est devenu une espèce d'habitude. Dès que j'ouvre un fichier, que ça prend un peu de temps, hop, quelles sont les dernières infos, parce que c'est addictif, hein. Il y a tout le temps des nouveaux articles qui sont postés, quoi. Et puis l'actualité, ça se vit en temps réel, hein. Donc c'est tout le temps des nouveaux trucs qui se passent. Et en fait, je travaille, et puis tout d'un coup, j'ai pas d'inspiration, hop, sur le site, des infos. Et en fait, c'est... Qu'est-ce que c'est? Enfin, vous savez, c'est comme des titres comme ça, comme dans Facebook là, des posts. Je sais pas, un tel critique machin, un tel, voilà, il est en burn-out, je sais pas, telle guerre machin. Enfin, tout est comme ça et on scrolle comme ça, on descend à fond la caisse là les informations et les yeux comme ça qui accumule toute cette information, mais à un niveau extrêmement superficiel. Hein. C'est juste, ah oui, d'accord, c'est ça, ah, ok. Et après, on passe plus de temps qu'on a prévu, le fichier est ouvert depuis longtemps, et on a la tête complètement, les yeux sont comme ça, et je me sens déprimé, je me sens découragé, tout ce que j'ai lu c'est que des mauvaises nouvelles, c'est que des mauvais trucs, et je les connaissais déjà en plus, quoi. C'est pas fondamentalement différent, hein. Je sais pas, l'affaire Fillon ça a duré 6 mois, la guerre contre l'État islamique, c'est voilà, enfin c'est bien, enfin je dis pas qu'il faut pas être, enfin il faut savoir ce qui se passe dans le monde et être conscient, c'est pas voilà, mais moi c'est devenu un niveau où c'était une habitude de lire les mails, enfin les news comme ça. Et c'est trop, quoi. J'ai pas besoin de tout ça. Ça me fatigue beaucoup les yeux, la tête, et c'est pas des nouvelles réjouissantes. Et je connais déjà ce qui se passe, quoi. Et après, quand je vais dans la voiture, j'écoute, je sais pas, France Inter, et c'est la même chose. Et France Inter, c'est en boucle, hein. C'est voilà. Donc bon, donc ça, je fais l'effort de moins le faire. Et l'autre jour, Théo, il m'a rattrapé là-dessus parce que je regardais dans mon téléphone. Non, c'est pareil. Avant de se coucher, voilà, qu'est-ce qui se passe dans le monde et tout. Et je lis en diagonale que les titres. Et Théo, il me dit, ah, parce qu'il adore quand je lui raconte un peu les actualités, il aime bien tout ça. Dis-moi, papa, juste un truc que t'as lu, dis-moi juste. Bah, non, j'ai pas envie parce que c'est que des mauvais trucs que j'ai lus. J'avais pas envie d'en parler avant de se coucher. Non, je suis désolé, Théo. Un autre jour. Et en fait, je me suis rendu compte, bon, déjà, j'avais pas envie de lui dire parce que c'était pas des bonnes nouvelles. Et l'autre chose, c'est que c'est, en fait, j'ai mémorisé des petits bouts de texte, mais je sais même pas qu'est-ce que c'est derrière. Ça veut rien dire en soi. Il faut lire l'article pour comprendre. C'est complètement superficiel. Donc, bon, c'est un exemple. Mais ça me créait beaucoup d'angoisse et c'est ingurgité plein de choses difficiles, quoi. Bon, je vais pas m'attarder trop. Donc, pour reprendre une formule que André a dit il y a quelques semaines sur la gestion du temps, il faut pas subir sa vie. Donc c'est exactement ça. Il faut se prendre en main, réaliser ce qui va pas et pratiquer vraiment la voie de Jésus, quoi. Si on lit dans Luc. Alors, dans Luc 5, verset 7, bon, en fait, dans Luc 5, verset 7, c'est quand Jésus, rencontre Pierre et les disciples, et voilà, il laisse tout, et ils le suivent, quoi. Voilà, c'est l'exemple. Il laisse tout, tous les bagages, tous les trucs derrière, le passé, tout ça, ils suivent Jésus, quoi. Et je reprends dans Luc 6, verset 40. On l'avait lu tout à l'heure, mais je m'étais arrêté un petit peu avant la fin. Non, c'est pas ça, Luc. 6. 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc ça, voilà. On n'est pas au-dessus du maître, mais par une certaine pratique, un certain apprentissage, un entraînement, un apprentissage, on devient comme son maître, son rabbin. Voilà. Et il y a trois buts dans notre vie d'apprenti de Jésus. C'est être avec Jésus, devenir comme Jésus et faire ce que Jésus a fait, quoi. Je gère très mal le temps. Wow. Je vais essayer de aller plus vite. Donc il y a deux, avant de regarder le deuxième paradigme, il y a deux mythes qu'il faut un peu écarter, hein, par rapport à ces enseignements. Le premier mythe, c'est, enfin, des mythes qu'on entend beaucoup qu'on peut entendre dans l'Église, mais voilà, il faut les mettre un peu de côté. Le premier mythe, c'est: tout ce que tu as besoin de faire, c'est connaître la Bible. En gros, ce qu'il te faut, c'est écouter des messages, lire des trucs. C'est très très bien, hein. C'est ce qu'il faut. Mais il ne faut pas juste s'arrêter à là. En fait, ce n'est pas juste la connaissance, ce n'est pas juste savoir ce qu'il faut faire qui est suffisant, hein. Voilà. Il faut aller plus loin, quoi. Hein, ce n'est pas juste transférer une information de je sais pas, André à nous, c'est pas ça seul qui va nous transformer, quoi. Voilà. Donc, ça, c'était un premier point. Et le deuxième mythe, en fait, ou enfin, comment dire, quelque chose qu'on peut avoir tendance à croire, mais voilà, il y a un petit truc, c'est « t'as pas besoin de faire quoi que ce soit, c'est Dieu qui fait tout ». Ça, c'est l'autre truc qui... Voilà. C'est-à-dire l'idée que, voilà, on est transformé, blâme, en un coup, quoi. D'un truc, enfin de là où on est, voilà, comme par magie, de ce qu'on est là, jusqu'à ce qu'on voudrait, à l'image de Jésus, hop, en un moment vraiment. Mais bon, il y a des moments super avec Dieu où il nous libère, il nous guérit, ça c'est des choses fantastiques. Mais souvent, les miracles comme ça que Dieu opère, c'est moins à voir avec notre maturité, quoi. C'est par étapes, hein. Il fait des choses dans notre vie pour qu'on soit débloqué et tout, mais voilà, la maturité, ça s'acquiert avec le temps quand même, quoi, et par l'apprentissage et par la pratique. Donc ce que Dieu attend, c'est on est partenaire, quoi. C'est partnership, c'est ensemble, c'est comme j'avais dit, hein, c'est lui, il fait vraiment le gros, quoi, le soulever les trucs lourds, tout ce que nous, on ne peut pas faire, ça, il le fait. Mais notre rôle, notre responsabilité, c'est être partenaire avec ce que fait Dieu, quoi. C'est pas juste attendre qu'il le fasse pour nous. C'est, il y a un truc, on peut se dire, ouais, Dieu, il nous donne par grâce, quoi. Mais en fait, ce qu'il dit, c'est que la grâce... C'est pas opposé, c'est pas le contraire de l'effort. La grâce, c'est le contraire du mérite. Donc, en fait, on ne mérite rien. C'est pas qu'on le mérite. On est aimé, pareil. Hein, j'ai entendu quelqu'un le dire dans une prière. On est aimé, quoi. C'était Amélie, je crois. Mais ça n'exclut pas qu'il y a une pratique, un effort à fournir, quoi. Voilà. C'est bien. Notre part, elle est beaucoup plus petite que la part que Dieu fait pour nous. Hein. On est d'accord. Et puis, comme dans l'exemple de Johnny, enfin, vous étiez peut-être pas tous là pour l'histoire de Michel, mais il a tout essayé et ça n'a pas marché parce que l'effort seul ne suffit pas non plus. Hein. C'est la prière accompagnée d'un effort de notre part qui produit du fruit, quoi. Alors maintenant, on arrive au deuxième paradigme. Donc, en fait, la formation. C'est une contre-formation de ça, quoi. Ça, c'est la... Maintenant, je vous parle de la formation volontaire, hein. Donc intentional. Donc, on a à la place des histoires, on a teachings, les enseignements. Voilà. Ah, c'est mal. Donc, les enseignements. Voilà, les enseignements, bah, on ouvre la Bible et ça, c'est la vérité, quoi. C'est pas une histoire, c'est la vérité, quoi. C'est ça qu'on doit avoir dans notre cœur. C'est ce que Dieu dit. C'est ça qui compte, bah, les mensonges, en fait. Toutes les autres histoires. Hein, ça, c'est voilà. je passe. Là. Voilà, donc ici, les habitudes, ce qu'il faut, c'est practices, donc la pratique. Hein. Enfin, les pratiques. Une petite nuance, hein, mais les habitudes, c'est un truc un peu subi presque, alors que pratiquer, c'est vraiment quelque chose qu'on décide, quoi. Alors, quand on lisait dans Matthieu 5, 6 et 7, hein, le sermon sur la montagne, en fait, je vous avais dit, ça a l'air super difficile à atteindre, mais il y a, en tout cas dans la Bible anglaise, alors dans la Bible française, c'est des mots un peu différents, mais au début, en fait, de ce passage où Jésus enseigne, il dit, en anglais, il dit « whoever practices », donc quiconque met en pratique ou quiconque obéit ou voilà ce genre de notion. Et à la fin, tout à la fin, quand il parle de l'homme qui construit sur le roc, il dit quiconque met en pratique ce qu'il a entendu. Donc en fait, c'est c'est un peu une sorte de... c'est ça le point de départ, en fait, quoi. C'est mettre en pratique ce qu'on a entendu. C'est ce qui est répété deux fois, au début, à la fin. Et c'est une vie entière de mettre en pratique. Alors, c'est... j'avais parlé déjà la dernière fois de l'exemple du marathon. Je m'excuse pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais voilà, si par exemple quelqu'un qui n'est pas spécialement athlétique ou en bonne condition décide demain je vais essayer de courir un marathon, quoi. Il va courir et puis au bout de 3 km, il est par terre, quoi. Il est effondré, hein. Enfin, je sais pas, c'est grave, quoi. S'il y a des gens qui l'encouragent sur le côté, il va peut-être aller jusqu'à 5 km et pareil, il va s'effondrer et ça va être grave, quoi. Donc, c'est la conclusion qu'on pourrait se dire. Bon, j'ai tout essayé, j'ai donné tout ce que j'avais, et c'est pas possible. C'est pas possible. Ça marche pas. Mais est-ce que c'est vrai que c'est pas possible? Non, on peut. Mais c'est un entraînement, un smart training. C'est un entraînement qui doit être vraiment progressif, qui doit être par étape, par rapport à... Ça doit prendre en compte notre capacité, notre personnalité, la saison dans laquelle on se trouve dans la vie. C'est pas à n'importe quel moment qu'on est obligé de se forcer à faire des choses, mais c'est... de répéter des bonnes choses, hein. De être partenaire avec Dieu pour aimer dans notre cœur les bonnes choses, désirer ce qui est bon. Vous savez, plus on prie, ça on connaît bien, plus on a envie de prier. Ou moins c'est difficile de prier, quoi. Plus on loue, plus on est dedans et plus on a envie de louer, quoi. Plus on lit la Bible, c'est passionnant, on a envie de lire plus, quoi. C'est ça. Si on commence pas, on peut se dire ouais, je suis pas trop lecture moi, etc. Bon, mais il y a un premier pas. Moi, je prends l'exemple de mes enfants, ils sont en train d'apprendre à nager. C'est étape par étape, hein. Hugo, pour mettre la tête sous l'eau, ça a pris déjà quelques séances, quoi. Hein, et je peux pas juste les jeter dans l'eau et aller nager, quoi. Enfin voilà, c'est pourtant je peux lui dire tu vas y arriver, il peut croire qu'il va y arriver, il peut être sûr qu'il va y arriver, mais si on se jette dans l'eau comme ça sans préparation, c'est pas bon, hein. Voilà. Donc il y a et par contre, hein, pour un enfant, enfin, il avait peur de mettre la tête sous l'eau, mais maintenant il y arrive et il croit qu'il sait nager, donc c'est ça le danger, mais mais bon, c'est par étapes, quoi. Alors, je me dépêche. Les relations, c'est la communauté. C'est pas juste, choisir ses amis parce qu'on a les mêmes goûts, tout ça. Ça, c'est la communauté de gens qui suivent Jésus ensemble, quoi. Lui, il dit, bon, on peut pas suivre Jésus tout seul. Alors, je sais pas si c'est quelque chose de vrai ou pas, mais c'est... On suit Jésus ensemble, quoi, à plusieurs, parce que quand on est en communauté, on est exposé, on peut savoir qu'est-ce qu'il y a en nous, les choses qui doivent être changées. Quand on se marie, hein, on découvre des choses l'un sur l'autre que finalement, ouais, ça c'était un peu, j'ai pas ce type de réflexe, pourtant ce serait bien de l'avoir parce que c'est pas très généreux de faire ça ou voilà. Donc c'est des choses qu'on en communauté. Par rapport à si on vit tout seul, on peut se sentir une personne très bien, mais à vivre avec des gens, on apprend. Ah ouais, tiens, là, je manque de patience ou je manque de voilà. Et c'est comme ça qu'on grandit, c'est suivre Jésus ensemble, quoi. Alors, l'environnement, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Donc. Notre but, c'est que la présence de Dieu, ça devienne notre environnement. C'est que on soit capable de vivre où qu'on soit, à l'église, mais en même temps dans la présence de Dieu, à la maison, mais en même temps dans la présence de Dieu, au restaurant, mais en même temps dans la présence de Dieu, etc. C'est être dans la présence de Dieu, tout le temps, quoi. Et alors, je passe dans Galates 5, 22, c'est les fruits de l'esprit. Je vais le prendre quand même. Galates 5. J'ai dit quoi ? 22. Ouais, 22. Merci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà. En fait, dans ce, ce qu'il dit par rapport à ce passage-là, c'est qu'en fait, le commandement, c'est pas tant, il faut que tu portes tous ces fruits par ta propre volonté, ton effort. Hein, c'est pas comme André dit, il faut pas tirer sur les fruits pour qu'ils poussent et tout. Mais le commandement, notre rôle, c'est ce qui est écrit au début, c'est en fait, c'est marcher dans l'esprit, quoi. C'est être dans l'esprit, être dans la présence de Dieu. Ça, c'est notre partie. Et de cette disposition, d'être dans sa présence, on porte ces fruits-là, en fait. Ça devient quelque chose qui est en nous et qui sort naturellement, en fait, quoi. Donc, c'est vraiment la présence de Dieu tout au long de la journée. Le temps, en bas, c'est pareil, en fait. Le niveau de contrôle aussi, c'est on peut le faire plus ou moins, toutes ces choses-là. Et le temps, c'est vrai, hein, il n'y a pas de... il disait que les jeunes aujourd'hui, avec les applications, les smartphones et tout, la technologie, c'est une promesse d'avoir une vie vite rapide, quoi, et réactif et tout de suite, quoi. Mais là, dans l'apprentissage qu'on a, la vie avec Jésus, c'est toute la vie. Hein, on n'est jamais arrivé. Hein, c'est une vie d'apprenticeship, d'apprentissage. Et même à 80 ans, il y a encore plus de choses qu'on a à apprendre, quoi. Hein. Et les expériences de la vie, c'est vrai que dans les difficultés, dans Jacques 1, on le lit, hein, Jacques 1 et 2, considéré comme une joie quand il y a des difficultés, je ne sais plus le mot, des épreuves. Voilà, mais ça c'est un verset super dur, mais je pense que, je ne me sens pas forcément super bien placé, mais je pense que quand on subit des... Enfin, quand on vit des épreuves, quand on subit des choses vraiment difficiles dans sa vie, en fait, c'est là qu'il y a le plus de potentiel pour nous faire grandir à l'image de Christ, quoi. C'est sur le coup, on se sent complètement abattu par terre, mais en fait, c'est là qu'il fait quelque chose en nous. Et après coup, avec le recul, on se rend compte que, ouais, effectivement, pendant ce temps-là, Dieu. Et il était là, quoi. Et j'ai vraiment senti qu'il était avec moi. Et je sais que c'est lui qui m'a sorti de là. Et en fait, le monde, tout ce qu'il peut nous offrir, c'est escape, quoi. C'est la fuite. Bon, ok, t'as un problème. Tiens, divertis-toi un peu. Tiens, je te prête ce DVD. Pense à autre chose. Enfin, amuse-toi avec nous, etc. Mais Jésus, il offre pas la fuite, hein, malheureusement. Et il nous offre. En fait, il nous offre sa présence, quoi, dans les difficultés. C'est ça, pour traverser, quoi. Et lui faire confiance. Ça, c'est un vrai apprentissage. Donc, le but, c'est comme on avait dit, hein, c'est de vraiment atteindre qui on est, enfin comment qui on est, comment Dieu nous a prévu d'être, atteindre ce niveau de être vraiment soi-même, mais vraiment à l'image de Jésus, quoi. Et de vivre dans sa présence. Et ça, c'est une vie entière, en fait, de apprenticeship, hein, être l'apprenti, hein, de Jésus, quoi. Et voilà, donc vraiment cette relation avec Jésus, c'est clé, quoi. Je vais passer à Jean 14 et 15. J'ai presque fini, hein, je suis désolé. Jean, je ne sais pas si je suis en retard. Ouais. Ça va ? Jean 14. Jean 14 et 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, par amour, dans cette relation d'amour, on peut suivre ces pratiques, en fait, quoi, ces disciplines qu'il nous donne. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Donc là, ce qu'il disait, c'est que le mot autre, c'est pas dans le sens un autre différent. C'est un autre pareil, en fait. C'est-à-dire, là, les disciples, ils sont avec Jésus, et Jésus leur dit, moi, je vous envoie un autre moi. C'est pas différent, c'est pas autre dans le sens quelque chose de complètement autre chose. C'est la même chose que moi, en fait. Je vous l'envoie, quoi. Donc, c'est another kind of me, quoi. Et donc, le Saint-Esprit, voilà, c'est central, en fait, dans cette transformation. Et d'ailleurs, à verset 26, il continue et il dit « Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc c'est vraiment ce sens de apprendre à vivre dans un état où on est conscient vraiment de la présence de Dieu et qui nous le rappelle, hein, et qu'on se laisse rappeler constamment que on puisse expérimenter vraiment sa présence tout au long de notre journée. C'est pas quelque chose qui arrive tout seul, ça prend du temps, ça prend de la pratique, d'une décision. Et il redirige toujours nos pensées vers lui, par le Saint-Esprit qui nous envoie. Et voilà, si on fait de Jésus vraiment notre désir, le désir de notre être, c'est lui qui est comme cette étoile, comme ça, qui nous conduit à tout moment, en fait, quoi, notre guide. Voilà.